Entre les lignes, c'est un podcast réalisé à l'occasion de la dernière édition de Cancat Vercors. Pendant 5 jours, Radio Royan Vercors a installé son studio mobile sur le camp de base de ce festival dédié à l'escalade et à la highline, situé à Pont-en-Royan. On s'est penché sur ce qui se joue aujourd'hui dans nos pratiques, c'était l'occasion de se poser ensemble des questions qui peuvent gratter et surtout d'échanger sur ce qui nous anime. Deuxième épisode, on discute de l'ouverture et du conventionnement des sites d'escalade et de highline. On s'est questionné sur ces sujets qui témoignent de l'évolution de ces pratiques et qui demandent parfois de se réinventer. C'était avec Romain, membre de l'équipe de Camp 4 et du collectif Clip, et auteur du topo d'escalade libre en Royan-Vercors, Baptiste, highliner et président de l'association Équilibre Valence, Mathias, agent de développement au comité départemental de la Fédération des clubs alpins de montagne, Cathy, monitrice d'escalade et grimpeuse de longue date, et Tom, grimpeur royanais avec qui on a imaginé cette série de podcasts.
Donc moi c'est Romain Jandet et donc je suis professionnel de l'escalade et de la montagne et j'ai organisé le festival avec d'autres amis et notamment avec Baptiste qui est ici présent. Voilà, donc moi pour la partie escalade et Baptiste pour la partie highline. Donc voilà, moi ma partie c'est le, on va dire le côté professionnel de l'activité. Et puis le côté promotionnel, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais en gros, on a essayé avec cet événement d'élargir la pratique de l'escalade et de lui donner un peu plus de tenue, d'épaisseur par rapport à nos valeurs, de ce qu'elle représente. Voilà, donc l'escalade de dehors, le terrain d'aventure, la montagne, l'escalade de haute falaise et l'ouverture aussi, l'ouverture de voie. Voilà.
Et donc toi, tu as déjà ouvert des voies aussi dans le coin ?
Alors moi, j'ai ouvert pas mal de voies, ouais, je suis ce qu'on appelle un ouvreur, c'est-à-dire que j'ouvre des voies pour grimper, pour moi et pour les autres. Et au travers de l'événement, au départ, historiquement, on a ouvert pas mal de sites pour permettre à tout le monde de participer, quel que soit leur niveau. Donc on a un peu développé les falaises autour du Royan, de façon à ce qu'il y ait des voies plus faciles, puisque historiquement, il y avait surtout la falaise de Presles, qui est une falaise qui est relativement technique et très raide et qui n'offrait que peu d'itinéraires qui soient abordables pour la majorité des grimpeurs.
Merci Romain, on continue le tour de table.
Mathias, du coup, donc agent développement au comité départemental de la Fédération française des clubs alpins de montagne. Et donc je suis présent sur l'événement pour me former, donc, parce que j'ai été embauché assez récemment en comité. Et donc c'est une chance, cette dernière édition du Camp 4, l'ultime chance de voir un peu comment se déroule l'organisation en amont, pendant et après le festival. Et après, plus largement, donc mon travail moi pendant l'année, c'est travailler sur la gestion, donc c'est un peu un gros mot, on n'aime pas trop, mais on va dire la conciliation des usages et faire en sorte que tout le monde puisse aller grimper. Parce que sur la Drôme, il y a eu pas mal d'interdictions de falaises dernièrement, donc il y a pas mal de gens qui savent, et notamment dans le Royan. En cause le déconventionnement des falaises et donc là en Drôme on essaie de mettre un nouveau modèle de conventionnement qui s'appuie beaucoup sur le bénévolat, sur les clubs locaux et sur des collectivités surtout comme la communauté de communes de Royan-Vercors qui prennent en fait la garde juridique, donc la patate chaude de la garde juridique, mais étant donné que c'est des collectivités c'est beaucoup plus logique. Là on n'a rien inventé, c'est assez logique, c'est ce qu'on essaie de faire un peu nationalement. C'est-à-dire de se dire que c'est plus logique que ce soit une collectivité qui est assurée pour, qui assure déjà des routes, des réseaux d'eau potable, d'assurer des falaises. Mais par contre, nous, là où on est novateur, c'est vraiment sur l'implication des clubs et de défendre une escalade qui est développée par les pratiquants, qui est entretenue par les pratiquants, et pour que l'escalade reste accessible à tous et que personne soit lésé. Donc, en sachant qu'en France, le contexte aussi, c'est que quasiment tout, enfin tout est privé, tout appartient à quelqu'un, soit des gestions publiques comme l'ONF par exemple, ou alors des propriétaires privés ou des communes. Et donc il y a aussi ça, c'est que quand on va dans la nature, et bien donc voilà, on est chez quelqu'un.
On continue le tour de table.
Alors moi c'est Baptiste. Alors je fais un petit peu de grimpe, mais je fais surtout de la highline du coup depuis 2016. Je suis président du coup de Équilibre Valence, donc c'est l'association locale, on va dire, autour de Valence. Et j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal d'échanges, on va dire, avec le département donc de la Drôme, avec des conciliateurs sport et nature ou des éco-gardes, et autrement le parc du Vercors. Nous, on arrive un petit peu après, on va dire, la bataille où il y a déjà eu beaucoup de disciplines. Du coup, essayer de faire notre petite place dans toutes ces montagnes et essayer d'ouvrir des nouvelles highlines dans un cadre juridique, on va dire, carré, quoi.
Voilà. Et c'est quelque chose de nouveau, du coup, cette question du conventionnement?
Alors, du conventionnement, pas forcément, parce que ça s'est toujours assez bien fait, mais plutôt au niveau local. Il y a le col de Tourniol, qui est un secteur de grimpe, où en fait on a pu faire un conventionnement, mais avec l'escalade. Après, à plus grande échelle, comme avec le parc, c'est quand même quelque chose de nouveau. Il y a eu des choses qui ont été faites un peu dans le sud, et ça commence à se développer, mais on va dire que c'est plutôt des petites échelles, où par exemple à Saint-Julien-en-Vercors, on a pu faire des choses, mais avec la mairie. C'est pas vraiment des conventionnements, on va dire, officiels, quoi. C'est plus des accords, on va dire, des accords de vive voix où c'est possible. Mais du coup, comme la discipline grandit, c'est un peu ce qui se met en place, et notamment avec la charte du Vercors qu'ils veulent mettre en place. Donc voilà.
Et dernière personne à cette table?
Eh bien, Cathy. Donc moi, je suis grimpeuse depuis très longtemps, une trentaine d'années. Je suis aussi monitrice d'escalade, mais je n'encadre pas beaucoup.
Voilà. Tu me disais que tu es aussi formatrice.
Alors, j'interviens au Crêpes de Vallon sur certains modules, pas beaucoup. Et voilà, et je traîne pas mal avec des équipeurs et je grimpe beaucoup. Voilà, ça occupe pas mal de mon temps.
C'est de ton point de vue et de tes expériences que tu vas venir nous parler aujourd'hui. Pour commencer, j'avais une question pour toi, Romain.
Oui.
Donc toi, tu l'as pas précisé, mais tu es aussi membre d'un collectif qui s'appelle Clip, dans le Royan. On peut peut-être partir de cette situation du conventionnement dans le Royan pour ensuite développer un peu... Est-ce que tu peux nous expliquer donc ce que c'est que Clip, à quelle occasion vous l'avez créé et...
En fait, au moment du déconventionnement qui a été, démarré par la FFME, la FFME a dénoncé les conventions, il y a eu un déconventionnement et forcément il y a eu une levée de bouclier des propriétaires qui ont demandé à ce qu'on ne grimpe plus sur leur terrain. Voilà, donc ça a été très compliqué, c'était dans toute la France et chaque région a réagi à sa mesure, comme elle pouvait, selon différents modèles en fait. Donc il y a eu des prises en responsabilisation de la part des régions, de la part de certains clubs, etc. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de créer un modèle un petit peu différent, qui soit purement associatif et participatif. Et donc on a créé une association qui s'appelle Clip, et qui nous permettait, en relation avec la FFCAM et les communautés de communes, de pouvoir répondre à la demande de responsabilisation de ces falaises. Voilà. Donc c'est un montage un petit peu complexe, je laisserai Mathias un petit peu expliquer le détail technique du montage. Mais en gros, on avait besoin, malgré la prise de responsabilisation des Comcom et l'accompagnement de la FFCAM et du département, on avait besoin d'un support associatif. Donc ce support, en fait, on l'a créé avec des grimpeurs, ouvreurs, équipeurs et puis gens un petit peu moins investis, mais qui étaient motivés pour faire fonctionner ce système et puis pouvoir continuer à grimper. On va dire en paix, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément d'aller grimper quand même si c'est interdit et d'être en conflit tout le temps avec les propriétaires. L'idée, c'était d'arriver à instaurer quelque chose qui soit assez apaisé. Et donc, on a dû créer cette association qui s'appelle Clip et qui nous a permis de rentrer dans cette imbrication administrative qui est un petit peu complexe. Voilà.
Et vous avez déjà eu des premières avancées suite à votre travail que vous avez pu faire dans l'asso?
Alors oui, ça a bien avancé puisque en fait le système a relativement bien marché. Il y a eu du monde motivé déjà pour créer l'asso, donc il faut quand même pas mal de personnes qui soient investies et connaisseurs des lieux. Et ensuite, ça a donné des bons résultats, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de propriétaires qui ont accepté justement de reconventionner sous couvert de la responsabilisation de la Comcom, de reconventionner leur terrain de façon à permettre la pratique de l'escalade. Donc il y a eu pas mal de réponses positives par la communication et la proposition de ce, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ce système. Enfin voilà, ce...
Ouais, c'est aussi un rapport de force, j'ai l'impression, entre plusieurs entités qui sont soit lointaines avec le département, des institutions qui sont loin de nous au quotidien.
Tout à fait.
Et des propriétaires, voilà, qu'on peut croiser, parce que voilà, les falaises sont en milieu rural, enfin, ouais, on habite ici, on se croise. Et du coup, c'est créer une entité tierce qui va venir porter ça, quoi.
En fait, voilà, l'association, elle est au plus près du terrain, elle connaît les lieux, elle connaît la pratique, elle connaît les pratiquants, elle connaît leurs habitudes, leurs modes, leurs codes, etc. Le département est plus sur la partie juridique et responsabilité, et accompagnement aussi juridique et financier, pas vraiment, mais quand même.
Voilà, vas-y, tu peux rebondir.
Si, du coup, financier, parce que le département subventionne Donc en fait, l'équipement, ce qui serait le plus coûteux, c'est pour ça qu'on défend un équipement bénévole, serait le temps passé. Mmh. C'est le temps passé, il est, les personnes en font don. Par contre, l'équipement, le département subventionne. Il nous subventionne aussi pour le matériel, c'est-à-dire que quand les clubs ont besoin de s'équiper en matériel, en perforateur, le département nous subventionne. Et après, l'autre partie du financement, donc comme ça on peut en parler, il est lié au topo d'escalade. Donc ça, c'est en France, on va dire que pas mal de financement des équipements est fait par les topos. Bon, après, on ne va pas polémiquer là, mais du coup, bon, des fois, il y a des topos tierces, pas forcément très acteurs du territoire, qui viennent purement pour la manne financière que ça peut représenter. En Drôme, on n'a pas ce souci-là, donc ça fonctionne aussi comme ça. Et après, donc, par rapport à ce qu'a dit Romain, donc, sur le Royan-Vercors, il y a une antenne, donc ça fait avec une communauté de communes. Et actuellement, le modèle il est développé sur 7 communautés de communes. Et donc, il y a 15 clubs au total en Drôme. Et donc, l'idée, c'est vraiment un partenariat où se partage le rôle donc, juridique de la communauté de communes. Certaines Comcom ont plus un tissu professionnel sport nature développé. Donc, ils peuvent porter plus de choses au niveau des conventions, au niveau juridique. Sur le Royan-Vercors, la Comcom n'était pas forcément en capacité de passer autant de temps, donc ils ont délégué au club cette partie-là. Mais ce partenariat est vraiment important parce que, comme tu disais, on rajoute de la proximité. Ça veut dire qu'avant, il y avait un comité territorial FFME qui était très actif, qui n'est plus acteur sur les SNE actuellement, mais qui l'a été pendant plus de 15 ans.
SNE,
des sites naturels d'escalade.
Merci, Mathias.
C'est les termes. sauf que ce qu'on remarque, c'est que sur le Royan, par exemple, il y a beaucoup de falaises qui étaient gérées, entretenues, et la partie relationnelle avec les propriétaires était faite en direct par le comité, donc par le salarié du comité qui descend. Et aujourd'hui, cette instance n'étant plus présente, il y a eu une perte de contact, et en fait, on se rend compte que du fait que ce soit partagé en fonction des territoires, c'est beaucoup plus proche des propriétaires. Il y a de la proximité et les maires et les communes sont aussi des partenaires. Ils ne sont pas signataires des accords, mais par contre, on s'appuie directement aussi sur eux et sur leur connaissance de leurs administrés. Voilà.
Et donc toi, Cathy, tu disais que tu traînais dans le milieu de l'escalade depuis très longtemps et que tu connaissais pas mal d'équipeurs, d'équipeuses. Bah, pas trop d'équipeuses, mais on en reviendra tout à l'heure. Quand on ouvre une falaise, est-ce qu'on l'ouvre encore aujourd'hui de la même manière qu'il y a 20 ans, 30 ans ?
Ben, après, il y a un peu différents sons de cloche. Il y a le modèle officiel où on va demander des autorisations, on va aller se renseigner du propriétaire, on va etc., trouver une convention. Et puis, il y a le mode sauvage.
Pirate,
sauvage, où... on va essayer de faire comme on faisait avant, à savoir se cacher déjà, pas faire de topo, avec toutes les problématiques que ça pose, pas en termes d'argent, parce que en fait, les équipeurs, quand ils sont suffisamment passionnés, ça leur coûte pas tellement cher, comme tu disais, c'était plutôt du temps passé et du don. Mais en termes de réseau, en fait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller à cette falaise que si on fait partie d'un réseau, et pas si on est un grimpeur lambda, ou alors il va falloir avoir des démarches très poussives. Mais ça pose un problème de déontologie, puisque a priori c'est accessible à tout le monde et tout ça. Et en même temps, ça protège quand même. Voilà. Donc il y a des modes pirates et puis il y a des modes intermédiaires. On fait comme fait par exemple la Slackline aujourd'hui, un petit serrage de main et ma foi, tant que ça dure, et ça dure. Il y a des propriétaires qu'on appelle qui peuvent dire non, mais moi je veux rien savoir, vous m'avez pas appelé, je sais pas ce que vous faites et je suis au courant de rien. Donc ça marche encore un peu. Voilà. L'espace se réduit quand même, mais...
On peut peut-être souligner par rapport à ce que dit Cathy que ces modes d'ouverture, on va dire, un peu sauvages, ils sont liés peut-être à une réglementation un peu plus difficile, mais aussi à une fréquentation accrue. Donc ce qui protège certains ouvreurs, entre guillemets, d'une fréquentation accrue qui ferait que les sites seraient trop fréquentés et poseraient des problèmes. Donc
des
on
problèmes
est sur ces deux tableaux-là.
Ben,
forcément, s'il y a 3 grimpeurs par mois qui passent sur un site, ils sont peu visibles et ils posent finalement peu de problèmes, même sur un propriétaire qui est au courant, même s'ils sont visibles. Par contre, s'il y en a 200 par semaine, c'est beaucoup plus complexe à gérer. Il y a forcément plus de monde, plus de déchets, etc.
Même si, de parking.
Voilà. Donc c'est sur ces deux aspects-là en fait, que ce mode d'ouverture, il est sous-jacent à ça en fait.
Et il a toujours existé dans l'histoire de l'escalade, quoi.
Et ben, je crois qu'on peut dire même que l'escalade, elle est née de systèmes comme ça. En fait, au départ, il n'y avait rien. Il n'y a que des gens motivés qui sont allés équiper de droite, de gauche, juste par motivation, et qui demandaient ou pas l'autorisation des propriétaires. Mais pareil, ça relevait d'un serrage de main, de dire, bon, voilà, on vous fera pas chier, nous, on va faire notre truc dans notre coin, et pas de problème, quoi.
Et comme l'escalade et la highline évoluent avec la société, on se pose aussi toutes ces questions, et c'est important de aussi continuer à se poser ces questions du bien vivre ensemble, quoi.
Aller dans une crique déserte, ça pose pas de problème. Le jour où on est 4000 sur la crique déserte, et ben c'est un problème. Donc voilà. En fait, c'est juste ça, c'est qu'on est juste plus nombreux.
Voilà, parce que c'est vrai, pour nous, grimper, c'est un espace de liberté. Ça part vraiment historiquement d'une conquête, donc on va faire des sommets, etc. Donc grimper, c'était la même chose au départ. Et la fréquentation fait que y a plus de voix, il y a plus de monde, et donc à un moment donné, on arrive sur une fin de système. En fait, on ne peut plus fonctionner, on le sait, on est d'accord là-dessus, on ne peut plus fonctionner comme on faisait il y a 20, 30, 40, 50 ans. Voilà. Et on est en train de se poser toutes ces questions d'ailleurs.
Mais je trouve que c'est hyper intéressant de poser les questions comme tu l'as posée, à savoir que tout est né de l'amateurisme. Et qu'il n'y a aucun moment où il y a... Enfin, c'est arrivé extrêmement tard, ça, qu'il y ait une commune qui dise « Bon, ben, nous, on voudrait un site d'escalade sur notre zone. » En fait, c'est tout nouveau, ça. Mais pendant... Enfin, je sais pas, l'escalade, on peut dire, ça date... l'escalade libre, années 70-80, quoi.
50 ans.
Ouais, 80, ça n'est jamais arrivé.
Et y a eu un article dans Les Feuillets, c'est un petit journal local, il y a quelques temps, par une grimpeuse du coin qui écrivait justement que c'était une chance que les équipeurs et que les équipeuses soient des bénévoles, soient des amateurs, et que ce soit pas encore une pratique qui soit normée, que ce soit pas aseptisée. Et est-ce que vous voulez rebondir là-dessus sur à quoi ressemblerait une falaise ou un site normé ?
À la fin du fin, c'est une salle d'escalade. Avec des enrouleurs, un équipement approprié, etc. etc.
Et un grand parking.
Et un grand parking. En fait, c'est ça, on est là-dessus. C'est qu'effectivement, un site, ce n'est pas possible de le sécuriser complètement parce que c'est un élément naturel. Donc, quel que soit le travail qui est fait et quel que soit le niveau d'exigence sur ce site de sécurisation, on n'arrivera jamais à sécuriser un site. Et en fait, il ne faut pas essayer de chercher à sécuriser un site. En fait, ça ne sert à rien. Il y aura toujours des problématiques... De mouvance de terrain, de structure rocheuse.
Naturel, et voilà.
Mais ne serait-ce que le matériel utilisé, c'est-à-dire on utilise un système qui est validé parce qu'il est posé dans le béton. Mais le caillou, en fait, on n'en sait rien.
Tout à fait.
Faudrait tous les tester au dynamomètre, ce qu'on ne fait jamais et ce qui n'a aucun sens.
Et ce qui serait impossible.
Oui, c'est dans les valeurs propres de l'escalade, cette notion aussi de risque et d'être dans un milieu naturel. C'est un choix dès le départ.
Ça fait partie intégrante de l'activité.
Voilà. Juste pour apporter une petite nuance avec l'highline, nous aussi on ouvre des secteurs qu'on va utiliser qu'une fois en fait. On a des projets des fois qu'on fait, c'est peut-être la petite nuance qu'il n'y a pas en escalade, c'est qu'on va installer plutôt des grandes lignes donc qui vont aller de 500 mètres à plus d'un kilomètre. Et ça, on va faire des demandes parce que déjà, d'un point de vue aviation, tout ça, on est obligé, on fait face à d'autres problématiques. Et du coup, on essaye vraiment de faire cette nuance entre des secteurs qui ont vocation à être fréquentés régulièrement, comme par un passage Julien au Vercors où on fait face à une fréquentation régulière, et des endroits où on a fait des demandes, par exemple comme à Fondurle où j'ai fait des demandes pour une highline, une seule fois, où l'impact il est quand même, négligeable par rapport à d'autres endroits où déjà il y a une grosse fréquentation. C'est la petite nuance, je pense, qu'on ne retrouve pas forcément en escalade et qui est important à souligner. C'est pas forcément l'assurance qui pose problème, c'est plus nous, on fait face plus aux problématiques par rapport aux oiseaux, à la fréquentation, mais des personnes aussi. À Fondurle, par exemple, c'est notamment pour ça qu'on n'a pas pu le faire. Parce qu'il y avait déjà une surfréquentation du site, donc c'était pas le but d'apporter encore plus de personnes. Après, pareil, il y a du coup des aspects pirates, on va dire, où là on va aller réfléchir intelligemment, où on va le faire à un endroit qui n'est pas fréquenté parce qu'on sait que c'est pas possible, à des endroits qu'on a jugé qui étaient faisables et qui, notre plein gré, c'était. On s'est donné l'accord de le faire à cet endroit-là. Mais autrement, pour les demandes d'autorisation, ouais, c'est souvent la fréquentation qu'il y a déjà. Les assurances, un petit peu, des fois, on a un peu ce problème d'assurance. Mais en fait, c'est facilement pour nous, c'est encore possible de mettre des trucs en place pour justifier. En fait, avec les associations, on peut arriver à prouver qu'on peut avoir des assurances derrière. Et ça... Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'antécédent aussi. Il n'y a pas eu des problématiques.
Ah, vous êtes fameux en attente de la jurisprudence.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de jurisprudence. Et je pense que le jour où il y a eu... Enfin, il y a eu déjà des problèmes. Mais le jour où il y aura, comme un peu ça s'est passé avec l'escalade, je crois, où il y a eu des déconventionnements parce qu'il y avait des jurisprudences. Nous, on est aussi un peu dans ce truc-là où il n'y a pas encore...
On peut quand même dire que, de toute façon, l'Highline, c'est quand même une activité très récente, très jeune. Et que finalement, elle a la même évolution que l'escalade, mais sur une période beaucoup plus restreinte.
Ouais.
C'est-à-dire que les premières lignes que vous avez posées, tu peux m'arrêter si j'ai des bêtises, hein, c'est qu'en fait, vous les avez mis où vous aviez envie de les mettre.
Ouais, c'est ça.
Sans autorisation, etc.
J'ai même pas fait partie de cette période. En 2016, c'était déjà, je pense, déjà bien entamé, cette partie de faut pas d'autorisation. Moi, je suis quand même arrivé plus dans l'aspect faut des autorisations pour faire. Quoi.
Et tout à l'heure, vous parliez du coup du partage des rôles dans le conventionnement, donc avec les mairies, les assos, différentes échelles, la FFCAM, plein d'acteurs. Et moi, je voulais vous poser la question aussi du rôle des pratiquants, des pratiquantes, qui soient nouvellement arrivés dans la pratique ou qui soient présents depuis super longtemps. Est-ce qu'il y a un rôle à jouer dans l'entretien des sites, est-ce qu'il y a une responsabilisation aussi à avoir quand on pratique aujourd'hui l'escalade?
Alors moi, je vais apporter une réponse qui n'est pas la seule, mais en fait, comme c'était une communauté qui était très restreinte, les grimpeurs faisaient l'activité, c'est-à-dire que tout le monde était investi, puisqu'en fait, c'était eux les créateurs, les pratiquants. Et aujourd'hui, ça a légèrement glissé, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des casifications, hein, c'est un mot qui n'existe pas mais que j'aime bien, en fait, où les gens sont mis dans des cases, donc pratiquants, ouvreurs, rééquipeurs, etc., etc. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, le pratiquant s'est éloigné de ce qui faisait justement toute la partie, le noyau de l'activité, en fait. C'est que il y a, dans les années 70-80, les grimpeurs, ils équipaient tous, ils ouvraient tous. Ils avaient tous une partie très prenante sur l'activité, en fait. Donc c'est eux qui l'a développé. Tous, en fait, sans exception. Et petit à petit, il y a eu effectivement des gens qui sont arrivés sur l'escalade parce que nous-mêmes, on l'a promotionnée, parce qu'elle a été aussi promotionnée par les fédérations, etc., par la société, et que ces gens-là sont rentrés dans l'activité qui était déjà existante avec des codes qui étaient légèrement un petit peu... Enfin, qui étaient différents, en fait. Donc, ils étaient pratiquants. Donc, ils arrivaient sur des sites qui étaient déjà équipés et petit à petit, ils se sont éloignés de tous ces aspects-là. Donc, effectivement, aujourd'hui, on arrive avec des communautés qui sont bien tranchées, des gens qui se sentent vraiment investis, pas forcément plus légitimes, mais en tout cas qui fabriquent tout l'ensemble de la pratique, et des gens qui sont uniquement, alors consommateurs, c'est vraiment pas un joli mot, mais en tout cas qui n'ont pas forcément les codes pour être dans le même esprit qu'il y a 20, 30, 40 ans. Quoi. Mais c'est pas forcément leur faute, en fait, c'est peut-être de la nôtre, tout simplement. Quoi. C'est qu'on n'a pas...
juste pas de faute, c'est comme ça, quoi.
Voilà, c'est comme ça, mais je pense qu'il y a quand même... Des notions à essayer de faire perdurer, en tout cas, sans parler d'éducation ou d'inculquer, à faire perdurer dans cette activité-là.
Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas tant de jeunes ouvreurs. Est-ce que ça, c'est un constat que vous partagez tous et toutes en Highline, peut-être moins ?
Moins, mais c'est pareil, le décalage, on le voit de plus en plus. En fait, c'est juste que je pense qu'on est en décalé parce que activité plus récente. Quand j'ai commencé l'Highline aussi, il y avait quasi tout le monde qui... avait une volonté, qu'il ne faisait pas forcément, mais qui avait une volonté d'ouvrir, puis d'installer aussi, parce qu'il y a quand même toute une partie aussi installation qui n'est pas forcément en escalade. C'est vrai que maintenant, il y en a beaucoup qui sont pratiquants et que ouvreurs, ça ne les intéresse pas forcément. Et l'installation aussi, ce n'est pas forcément leur intérêt. Quoi. Mais comme on est quand même beaucoup moins, il y en a toujours quand même des ouvreurs. Et les festivals aussi, ça joue dans ce sens-là, puisque ce qu'on propose au final, c'est d'aller pratiquer sur des highlines. Et à Caen 4, au final, chaque année, je rencontre des gens qui n'ont jamais installé d'highline et qui n'ont pas une volonté d'ouvrir. Et ce n'est pas quelque chose qui est péjoratif, c'est juste que ça évolue comme ça. Quoi. Mais par contre, il y a peut-être une éducation à faire pour qu'on puisse continuer à ouvrir des sites. Quoi.
Moi, je ne sais pas trop quoi en penser, en fait, j'avoue. Est-ce qu'on se doit de former les pratiquants? Est-ce que si ça, c'est le cas, ils vont s'approprier tellement de choses que ça va partir dans un sens qui n'est qu'on n'attendait pas ou pas souhaitable ou trop ou je sais pas, par exemple il y a une voie qui est équipée, un pratiquant il se rend compte que il y a une chute un peu haute, est-ce que il rajoute un point du coup, enfin, et je sais pas si c'est bien. En même temps que si, quelque part, c'est bien d'avoir une culture de l'activité et des points et tout ça, et de qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui n'est pas, à quoi je fais confiance, à quoi je fais pas confiance, tout ça, c'est important. Je sais pas si on doit pousser les gens à ouvrir, par exemple, ou si ça reste dans un cercle qui, pour l'instant, encore aujourd'hui, est un petit peu réduit et que ça suffit. En même temps que c'est pas élitiste le mot, mais communautariste, par exemple. Je sais pas en fait. Et en même temps, si tout le monde décidait là d'acheter un perfo et d'ouvrir des lignes, c'est sûr qu'on va au carnage. Jusqu'à maintenant, les équipeurs ils étaient souvent cooptés. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un est intéressé, ben, pas de problème, tu vas avec un équipeur qui a déjà équipé, puis il t'explique des trucs et ça se fait comme ça dans la durée. Mais là, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça commence déjà ça à changer. En fait, je sais pas, les héritages d'ouvreurs, il y a des stages en fait d'équipement et tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et quelles sont exactement les valeurs et les restrictions hyper fortes qu'on se doit de mettre en œuvre? Je crois qu'on n'a pas encore réfléchi à exactement ça. Mais par rapport au label. comment c'est déjà Calligraphe ou en fait
c'est quoi?
C'est un label pour être équipeur.
Okay.
Et labellisé Calligraphe. Mais justement, quand on regarde le cahier des charges du truc, c'est carrément, ça fait flipper parce que quand on, il y a des mots par exemple d'optimisation de secteur. Et ça c'est un mot qui fait peur en fait, parce que quand tu ouvres un secteur, tu ouvres des lignes. Et après,
c'est
éventuellement,
pas dans une forme de rentabilité.
Exactement. Et donc, ils ont essayé. Alors, y a eu des bonnes choses hein, dans cette tentative, on va dire. Et en même temps, il y a des choses qui sont tellement abomifreuses que.
Et pourquoi ça naît de quoi là? Il y a eu un besoin de créer un label? Pourquoi ça a été.
Eh bien, c'est justement la question de.
C'est à la suite du déconventionnement. Okay. C'est-à-dire qu'il y a eu des problématiques, on a bien vu, de responsabilisation. Et donc, ça a été une proposition pour rassurer les communes. Mais forcément, ça ouvre un peu le
champ du professionnalisme, voilà. Déjà, que ouais. Nous, on refuse absolument. Et de la grille, c'est quoi le label? Qu'est-ce que ça garantit, ce label? Mais en fait, être un bon ouvreur, on ne sait pas exactement en fait, quelles sont les compétences.
En fait, technicité. Justement, c'est ça qui est assez... je ne m'aventurerai pas forcément trop sur le sujet Calligraphe, mais...
Non, mais...
En tout cas, la lecture personnelle que j'en ai, j'ai l'impression qu'ils ont voulu donner un élément de réponse justement à une dérive où on professionnalise l'équipement. Et en fait, eux, leur idée de base, je pense, c'était de proposer un label où on dit il y a des équipeurs labellisés qui sont bénévoles pour éviter qu'on ait une dérive vers la professionnalisation. Le problème, le penchant du truc, c'est que quand on lit les textes qu'ils ont fait, ils s'appuient encore une fois sur des normes, de points. Et en fait, moi, aujourd'hui, je pense que la réponse est très simple, c'est qu'on est dans le milieu du loisir et que quand une entreprise de travaux accrus sécurise au-dessus d'une route, la route, on n'a pas le choix. On peut passer là, on passe... si une pierre tombe sur une voiture et tue une famille de 4 personnes, ils n'avaient pas le choix, ils sont passés là, sans forcément savoir le risque qu'il y avait au-dessus, et ils sont morts. Voilà. Donc, que derrière, là, je pense qu'il y ait un système de normes, de sécurisation plus importante, plus accrue, parce que c'est des besoins primaires, enfin, je dirais, de se déplacer. Tout ça. Nous, on est dans un loisir, et donc les pratiquants qui sont là, ils sont là de leur plein gré. Et déjà, l'activité qu'on fait, c'est une activité qui a des risques. Et ce qui se passe, donc, il y a l'explosion des pratiquants. Donc aujourd'hui, en France, les chiffres ne sont pas très précis parce qu'il y a les scolaires, il y a les... Enfin, bref, on est à peu près 3 millions, en gros. On ne sait pas vraiment combien on est en falaise. Ce qui est sûr, c'est que ces pratiquants de salle qui arrivent, je pense que la première chose dans l'implication, c'est la curiosité. Et si on est curieux, en fait, c'est déjà ça. Et en fait, si les gens, ils n'ont pas envie d'équiper, en fait, ce n'est pas grave. Mais c'est juste d'être curieux, de comprendre comment l'activité fonctionne pour pas faire d'impair. Et après, l'implication, ça peut être juste, j'ai un sécateur et je dégage le chemin d'accès qui n'a pas été dégagé après le printemps. Surtout ces gens qui vont être curieux et apprendre de l'activité, il y en a une infime partie qui va équiper tout ça. Et je pense que c'est pertinent que ça reste comme ça. On est plutôt dans une logique où on essaie de conserver une dynamique dans notre pratique. Ce qu'on défend aussi, c'est de dire pourquoi ouvrir des nouvelles voies. Parce que les élus ou les personnes qui n'ont pas forcément de sensibilité pour la pratique en état extérieur, ce qu'on leur explique, c'est qu'une pratique qui n'évolue plus, c'est une pratique qui vaut à mourir. Et je pense en Highline, c'est ça aussi. C'est qu'on voit une très belle vallée où il y a moyen d'ouvrir une ligne de 1 km, même si on va l'ouvrir qu'une fois. c'est un moyen de dynamiser la pratique, de motiver les pratiquants qui après eux vont aller à des réunions par exemple pour négocier, faire une convention ou une charte et qui vont arranger les choses on va dire à plus long terme avec proposer des solutions de décharge responsabilité parce qu'il y a tout ce travail derrière et aussi je dirais, il y a peu d'équipeurs mais il y a moins de gens qui vont dans les réunions et qui vont rencontrer les élus et moi je dirais il n'y a pas une seule manière de s'impliquer et juste de faire en fait des relations humaines et de trouver des solutions. Là on est vraiment loin du perfo mais
je crois qu'il y a un des éléments, c'est que notre pratique individuelle, elle relève d'une responsabilité collective. Et ça peut-être c'est bien que vraiment les pratiquants ils prennent conscience de ça. C'est-à-dire que si toi tu te gares mal, et ben en fait tu mets tout le monde dans la merde. Et peut-être que ça c'est un des premiers éléments.
Oui, c'est que en allant au pied d'une falaise, on n'y va pas seul, on y va avec dans cette histoire collective et dans cette pratique collective.
Exactement. Ouais.
Et juste pour rebondir, tant qu'on parle d'équipeurs, toi tu disais qu'il y avait aussi peu de femmes équipeuses.
Est-ce qu'on peut même dire qu'il n'y en a pas ?
Non, il y en a quelques-unes.
Quelques-unes, mais
c'est un millième, je pense.
C'est une infime partie des équipeurs.
Oui. Ouais. Alors donc, je n'équipe pas et je suis une vieille grimpeuse. Du coup, ce qu'on disait en aparté là, mais ma théorie, mais ça reste ma théorie, c'est que ça relève d'une lutte féministe, en fait, au sens où l'appropriation du territoire pour les femmes, elle est difficile dans l'espace public et qu'elles sont plutôt, de façon culturelle, hein, en tout cas en ce qui nous concerne, tournées vers les métiers du care, l'intérieur et tout ça, et que la démarche de dire bah, je vois une falaise et moi je vais faire une ligne, on n'en est pas encore tout à fait là, mais j'espère qu'on va y venir. Pour moi c'est même pas une histoire de confiance en soi, c'est vraiment une histoire d'être acteur dans l'espace public et qui est une place qui n'est pas si évidente que ça. Alors en plus moi je suis une vieille génération quand même, enfin voilà. Et je pense que c'est de façon hyper inconsciente et contre laquelle je lutte à mort, et ben malgré tout je pense que c'est un truc qui m'arrête.
Je rebondis sur la highline, est-ce que c'est des choses que vous partagez ? Est-ce
qu'il y a... Ouais, globalement il y a peu aussi d'ouvreuses en highline. Après comme on est moins de pratiquants aussi, on les voit plus et on les connaît plus facilement, donc moi j'en connais des filles qui organisent même des festivals qui ouvrent aussi des highline, mais pareil c'est infime et voilà. Après peut-être aussi la petite nuance par rapport à l'highline, l'escalade pardon, c'est qu'on a tendance plus à ouvrir peut-être à plusieurs, on va moins j'ai l'impression que c'est ça, en escalade on peut aller ouvrir une ligne tout seul et dire ok c'est mon projet et je vais aller ouvrir cette voie, alors qu'en en highline ça va être plus une vision qu'il y a déjà il y a deux ancrages pour avoir une analyse un peu plus globale du site, tout ça, j'ai l'impression que ça se fait plus à... Enfin, de mon côté, je sais que quand je vais ouvrir un site, je vais plutôt demander à d'autres personnes pour savoir ce qu'ils en pensent.
La question, c'est de savoir si quand tu es avec des femmes, c'est toi qui prends le lead ou pas.
Je crois que j'ai jamais ouvert avec des femmes. Du coup, je ne saurais pas te dire. J'ai installé des highlines, donc des highlines déjà ouvertes, donc déjà percées avec des filles. Et c'était pas forcément moi qui avais le lead. Ça se passe déjà pas toujours, on va dire, mieux quand il y a plusieurs, d'ailleurs, forts tempéraments masculins qui essayent de prendre le lead.
Donc, ça serait lié à une certaine forme d'ego.
Oui. J'ai vécu plusieurs situations où c'est beaucoup de coordination en une installation de highline. Du coup c'est vrai qu'il y a des décisions à prendre sur comment faire et quelles procédures on décide de mettre en place, et du coup ça va être vite moi je pense qu'il faut que je fasse comme ça, et d'ailleurs on a une phrase qu'on aime bien répéter, qu'on dit maintenant en blague quoi, qui ressort beaucoup, c'est j'aurais pas fait comme ça, parce qu'en fait c'est quelque chose qui ressort très très régulièrement où j'aurais pas fait comme ça, mais en blague quoi, vraiment moi je pense que c'est mieux comme ça Alors qu'en fait il n'y a pas forcément qu'une solution sur une installation, et puis il y a plusieurs choses qui peuvent être faites quoi.
En fait il y a un moment donné quand même, quand on ouvre beaucoup de voies on aime bien ça, c'est quelque chose d'assez passionnel, et ce qui nous fait réagir c'est la ligne, c'est le rocher, les lignes qu'on va voir, donc c'est vraiment le côté esthétique. au-delà de la difficulté, c'est l'esthétisme d'une falaise, d'un lieu, d'une vallée.
Il y a de la créativité là-dedans aussi.
Il y a beaucoup de créativité.
Mais en fait, quelque part, moi, je pense que c'est de l'art.
Complètement. Mais moi, je suis le premier à crier là-dessus. En fait, c'est que j'ai fait un topo. Et donc, j'ai tenu à mettre vraiment en avant les ouvreurs, parce que je pense qu'ils font un travail essentiel. Et je me suis rendu compte en le faisant, de manière un peu anodine, qu'effectivement, il n'y avait aucune fille. Et j'ai eu pas mal de remarques. Oui, il n'y a pas de fille, etc., etc. Mais en fait, ma réponse est simple. J'ai mis les gens qui ont ouvert les voies. C'est pas moi qui vais les inventer, en fait. Et je pense que la porte est largement ouverte. Mais je pense qu'en plus, ça va changer. C'est-à-dire que de la même manière qu'on voit des tas de groupes de filles qui se créent pour aller faire de l'escalade, de la montagne, etc. Donc je ne vais pas les citer parce que je ne les connais pas tous, mais qui mettent juste en avant des dynamiques différentes où les femmes, en fait, elles n'ont juste pas le choix. Elles sont deux femmes, c'est des cordées de deux, de trois, de quatre, des groupes. Donc de toute façon, s'il y en a une qui va devant, c'est forcément une, en fait. Et d'ailleurs, c'est un peu la raison avancée de fait qu'il n'y ait de pas de mixité, en fait. C'est que ça leur donne justement pas le choix et qu'elles sont justement... Elles passent devant. Et de la même manière que ces groupes ont eu besoin de sortir en fait du milieu, en fait, de s'extraire de ce fonctionnement qui est, je pense, très machiste au départ, dans l'équipement, dans l'ouverture, ça viendra, ça
Absolument.
Commence. Il y a quelques femmes qui commencent à ouvrir et qui le font souvent entre elles aussi. C'est-à-dire qu'elles ont quand même besoin de se retrouver dans une communauté féminine pour pouvoir se dire, bah, en fait, on le fait, on est des femmes et on le fait. Voilà. On n'a pas le choix.
Donc, c'est clair de l'héritage qui était imprégné dans la pratique. Quoi.
Alors que s'il y a un garçon, on connaît bien les dynamiques, c'est-à-dire que le garçon, il est là, l'homme est là, et en fait, la fille va se dire, bah, en fait, puisque tu es là, tu vas passer en tête, et il y aura une double pression. C'est-à-dire que l'homme, de son côté, va se sentir obligé, alors qu'il n'a pas forcément ni les compétences ni l'envie, et la femme, de la même façon, va se sentir obligée de laisser passer devant les garçons. Voilà. Donc, c'est des dynamiques qui se retrouvent. En équipement, c'est la même chose. Voilà. Mais je pense que c'est en train d'évoluer, mais comme tout, c'est très long.
On a pas mal parlé des problématiques liées au conventionnement et puis aussi à la surfréquentation. Au départ, le Kanka, l'idée c'était de partager une passion. On a vu que ça a créé des problématiques. Est-ce que aujourd'hui, une des raisons qui amène à la fin de ce festival, c'est d'être arrivé dans une impasse et qu'il y a trop de pratiquants et de pratiquantes? Ou bien vous allez continuer à partager votre passion, mais d'une autre manière?
Alors déjà, je ne dirais pas que Camp 4 a créé des problématiques qui ont amené au déconventionnement. Je pense que c'est une évolution sociétale tout à fait normale, naturelle, qui se voit partout, en fait, en France, mais aussi en Europe et aussi voilà, ailleurs. Mais alors, effectivement, on s'est bien posé la question. On se pose la question, effectivement. Finalement, au départ, c'est vraiment on a envie de partager quelque chose, qu'on a envie de partager, et du coup, que ça prenne de l'essor. Et aujourd'hui, on se demande s'il faut que ça prenne encore plus d'essor. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que finalement, il n'y a pas des communautés différentes qui sont en train de s'extraire de tout ça et qu'il y a des gens qui vont grimper essentiellement en salle et qui sont bien à grimper en salle? C'est quelque chose de très bien de grimper en salle, mais qui finalement s'éloignent de cette pratique-là. Et est-ce que finalement, ce n'est pas notre salut? De finalement, à un moment donné, peut-être une partie des pratiquants retournent sur une escalade plus nature, qui a des codifications un peu plus complexes, et qu'il y a une partie des pratiquants qui se tournent plus vers une escalade indoor, comme on la connaît, et qui peut accueillir beaucoup plus de monde et beaucoup plus facilement. Est-ce que c'est pour ça qu'on arrête? Pas uniquement. Mais en tout cas, effectivement, ça fait partie de la problématique. On peut se demander si à la fin du fin, est-ce que finalement on n'est pas en train aussi de se tirer une balle dans le pied? Voilà, ça c'est effectivement, ça reste le point d'interrogation. On est dans une recherche d'équilibre, effectivement, donc ça c'est clair. Et moi je dirais juste que de retourner vers une pratique un petit peu plus clivante, voilà, avec des risques assumés, des codifications un peu bien présentes, ça peut permettre aussi d'un petit peu limiter la fréquentation, en tout cas en falaise. Voilà. Et du coup de sortir aussi de l'impasse, de l'aseptisation, de la professionnalisation de l'équipement, etc. etc. quoi. De revenir sur une pratique un petit peu plus affranchie de tout ça. Quoi. Voilà. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça. Mais...
Merci à Cathy, Mathias, Romain, Baptiste et Tom. Prochain épisode, le vertige de l'écologie.